Chapitre 51. Le but ultime des financiers, un gouvernement mondial. Article d'Alain Pilote, paru dans Verdomin, d'août septembre 1996. Le vice du système financier actuel, c'est que les banques créent l'argent sous forme de dette, chargeant un intérêt sur l'argent qu'elles créent. L'obligation pour les pays endettés de rembourser à la banque de l'argent qu'elle n'a pas créé, de l'argent qui n'existe pas, entraîne des dettes impayables. Les financiers savent très bien que les dettes des pays sont impossibles à rembourser, que le système financier actuel est défectueux à sa base et qu'il ne peut engendrer que crise et révolution. Mais c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Comme l'a décrit Clifford Hogg Douglas, le fondateur de l'école créditiste, le pouvoir monétaire ne veut pas, il n'a jamais voulu, améliorer le système monétaire. Ses conséquences, guerre, sabotage et friction sociale, sont exactement ce qui est désiré. Pourquoi? C'est parce que les financiers se croient les seuls à être capables de bien diriger l'humanité. Et c'est afin de pouvoir imposer leur volonté sur les individus et contrôler le monde qu'ils ont inventé un tel système d'argent-dette. Ils veulent amener toutes les nations du monde dans un tel état de crise que ces pays croiront n'avoir pas d'autre choix que d'accepter la solution miracle des financiers pour sauver de la catastrophe. La centralisation complète. Une seule monnaie mondiale et un gouvernement mondial où toutes les nations devront abandonner leur souveraineté. La commission trilatérale. Il y a actuellement trois grandes régions ou blocs économiques dans le monde. L'Europe, l'Amérique du Nord et l'Extrême-Orient, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Chine, etc. Sous le prétexte de devoir s'unir afin de pouvoir faire compétition aux autres grands blocs économiques, les pays membres de chacun de ces trois blocs décideront de se fusionner en un seul pays, formant ainsi trois super-États, et alors le gouvernement mondial unique sera presque atteint. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement, et c'est poussé par la commission trilatérale, un organisme fondé en juillet 1973 par David Rockefeller, président de la Chase Manhattan Bank de New York. Le but officiel de la commission trilatérale est d'harmoniser les relations politiques, économiques, sociales et culturelles entre les trois grandes régions économiques du globe, d'où le nom de trilatéral. Ce but est déjà presque atteint en Europe, avec la loi sur l'Europe unie, entrée en vigueur au début de 1993, exigeant que tous les pays membres de la Communauté économique européenne, CEE, ou marché commun, abolissent leurs barrières tarifaires et laissent aux technocrates de la Commission européenne, à Bruxelles, le soin de décider des politiques fiscales et monétaires de ces pays. Depuis 1999, la plupart des pays membres de l'Union européenne partagent une seule monnaie commune, l'euro. En ce qui concerne le bloc de l'Amérique du Nord, la fusion de ces pays est bien avancée avec le passage de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain. D'abord entre le Canada et les États-Unis, puis ensuite avec le Mexique. D'ici 10 ans, ce traité est censé inclure aussi tous les pays d'Amérique centrale et du Sud. Il existe une forte pression sur ces pays pour qu'ils harmonisent leur politique fiscale, tout comme en Europe, l'union économique menant inévitablement à une union politique. On parle même ouvertement d'union nord-américaine et de monnaie unique, l'Améro. En face de ces deux géants économiques, l'Europe et l'Amérique, les pays de l'Extrême-Orient n'auront pas d'autre choix que de s'unir eux aussi pour pouvoir faire compétition aux deux autres blocs dans le domaine du commerce international. Une monnaie mondiale, la marque de la bête. Pour consolider leur pouvoir, les financiers veulent aussi éliminer les monnaies nationales de chaque pays et installer une seule monnaie mondiale. Dans les années 70, le docteur Henrik Eldeman, analyste en chef de la conférence du marché commun, dévoila à Bruxelles un plan pour mettre fin au chaos mondial. Un gigantesque ordinateur autoprogrammeur occupant 3 étages du siège social du marché commun à Bruxelles, en Belgique. Les gens qui y travaillent appellent cet ordinateur la bête. Le plan implique un système de dénombrement chiffré de chaque être humain de la Terre. L'ordinateur attribuerait à chaque habitant de la planète un numéro pour servir à tout achat ou vente. Ce numéro serait invisiblement tatoué par laser ou implanté sous forme de micro-puce électronique pas plus grosse qu'un grain de riz, soit sur le front, soit sur le revers de la main. Le docteur Eldeman ajouta qu'en se servant de 3 données de 6 chiffres chacune, chaque habitant se verrait attribuer un numéro de carte de crédit distinct. Cela ressemble étrangement à ce que l'apôtre Saint Jean décrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Les cartes de débit et la micropuce. Il y a 50 ans, avant l'invention des ordinateurs et des micropuces, un tel système aurait pu sembler irréalisable et relevé du domaine de la science-fiction. Mais maintenant, tout le monde connaît les cartes de débit avec lesquelles vous pouvez acheter n'importe quoi au magasin sans avoir besoin de transporter de papier monnaie sur vous, le montant de votre achat étant automatiquement déduit de votre compte de banque au moment de l'achat. Le but avoué des banques est d'éliminer tout l'argent liquide, les billets de banque et les pièces de monnaie, et d'obliger les gens à se servir de cartes de débit comme seul moyen de paiement. Il y a toujours le risque de perdre sa carte de débit ou que quelqu'un d'autre l'utilise illégalement. D'ailleurs, avec les cartes de débit avec micropuce, il n'y a même pas de numéro de sécurité à composer. On n'a qu'à insérer la carte dans la machine. Celui qui se fait voler sa carte peut donc se faire vider son compte de banque par n'importe qui. Alors, voici qu'intervient la solution ultime. Lier les gens physiquement à leur carte, ainsi il n'y aura plus aucun moyen de la perdre ou de se la faire voler. Et nous avons la situation suivante. Une micropuce électronique sera implantée sous votre peau ou une série de 6 chiffres tatoués sur votre peau, tel que décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Tout sera alors en place pour un gouvernement qui désire contrôler les faits et gestes de tous et de chacun, puisqu'il pourra tout savoir à votre sujet. Tout ce que vous achetez, où et quand, qui vous téléphonez, combien d'argent vous avez, tout cela sera inscrit sur la micropuce. Et si pour quelque raison que ce soit vous êtes classé par le gouvernement indésirable ou ennemi de l'État, il n'aura qu'à effacer votre numéro de l'ordinateur central, et vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre, et vous serez condamné par le fait même à disparaître à brève échéance. Selon Saint Jean, ceux qui recevront cette marque de la bête devront adorer l'Antéchrist et renier le Christ. Les Illuminati. Cette quête d'un gouvernement mondial existe depuis nombre d'années. Par exemple, le 17 février 1953, le financier Paul Warburg déclarait devant le Sénat américain « Nous aurons un gouvernement mondial que vous le vouliez ou non, par conquête ou par consentement. » Cette quête d'un gouvernement mondial remonte à la création des Illuminati, une société secrète en 1776. Leur chef, Adam Weishaupt, écrivit le plan d'ensemble pour amener l'assujettissement de tous les êtres humains à une oligarchie de financiers. Le mot « Illuminati » tire son origine de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Lucifer signifie « porte-lumière » car il était le plus beau et le plus brillant des anges avant sa révolte contre Dieu et sa chute en enfer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'insigne de l'ordre des Illuminati apparaît au revers du billet $1 américain, et cela depuis 1933, année où il y apparut pour la première fois sur l'ordre du président américain Franklin D. Roosevelt au tout début du New Deal, nom donné aux réformes politiques de Roosevelt. On peut lire à la base de la pyramide de 13 étages l'année 1776. MDCCLXXV1 en chiffres romains. La plupart des gens s'imaginent que ce chiffre représente l'année de la signature de la Déclaration d'indépendance des Américains. Mais en réalité, il représente l'année de la fondation de l'Ordre des Illuminati par Weishaupt le 1er mai 1776. La pyramide sur le même billet de banque représente la conspiration pour la destruction de l'Église et l'établissement d'une dictature mondiale. L'œil au sommet représente le réseau d'espions mis sur pied par Weishaupt pour conserver le secret de l'ordre, pour terroriser la population et la forcer à accepter sa dictature. Les mots latins « annuit »,« coeptis » signifient « notre entreprise, conspiration, a été couronnée de succès ». En bas, les mots « Novus Ordo Seclorum » expliquent la nature de cette entreprise. Ils signifient un « nouvel ordre mondial ». Cet insigne fut adopté comme revers du grand sceau des États-Unis d'Amérique par le Congrès américain le 15 septembre 1789. L'envers, ou côté opposé du sceau, montre le symbole plus connu de l'aigle, figurant lui aussi à l'endos du billet $1 américain. Le fait que ce symbole fit son apparition sur les billets de banque américains en 1933 signifie que les chefs conspirateurs des Illuminati considéraient alors que leurs efforts étaient effectivement couronnés de succès et qu'ils contrôlaient totalement le gouvernement américain. Conspiration luciférienne. Dire que les Illuminati sont une conspiration luciférienne n'est pas simplement une figure de style, mais est littéralement exacte. En effet, les chefs des Illuminati sont réellement des adorateurs de Satan, et leur objectif final est que tout le monde s'incline devant lui. Au moyen de ses serviteurs, c'est Lucifer qui continue sa révolte contre Dieu en voulant faire échouer le plan de Dieu sur la terre, et d'enlever à Dieu le plus d'âmes possible. Tout comme Satan, les financiers se croient plus fins que Dieu, les seuls à être capables de bien diriger l'humanité. Les membres des Illuminati sont des gens de toutes races et croyances, mais qui sont unis par la même soif d'argent et de pouvoir. Reconnaître les forces en présence. En conclusion de son livre, Pawns in the Game, qui dénonce le complot des Illuminati pour une domination mondiale, William Guy Carr explique ce qui doit être fait pour stopper ce plan. Premièrement, reconnaître les forces spirituelles en présence. réaliser que nous avons affaire non seulement à des forces terrestres, mais aussi à des forces spirituelles, que c'est le combat de Dieu contre Satan. Nous devons choisir qui nous allons servir, pour qui nous allons combattre, Dieu ou Satan. Deuxièmement, prendre les moyens concrets de contrecarrer le plan des financiers, ce qui, selon le mot de M. Carr, ne peut se faire que par une réforme monétaire. Les électeurs doivent insister pour que l'émission de l'argent soit placée entre les mains du gouvernement auquel elle appartient de droit. Nécessité du crédit social. La prière et les sacrifices pour obtenir l'aide du ciel sont certainement nécessaires pour arrêter le plan des financiers. Mais il faut aussi une technique, un moyen temporel pour contrecarrer le plan des financiers. Et ce moyen, c'est la réforme du crédit social, conçue par l'ingénieur écossais Clifford Hogg Douglas, la seule que les financiers craignent réellement et qui mettra fin à leur pouvoir de contrôle de toutes les nations. Les mots crédit social signifient argent social, de l'argent créé sans dette par la société, au lieu d'un crédit bancaire, de l'argent créé par les banques sous forme de dette. Douglas avait tout d'abord cru qu'une fois que sa découverte et ses implications auraient été portées à l'attention des gouvernements et de ceux responsables de l'économie, il se serait hâté de l'appliquer. Mais Douglas fit aussitôt une autre découverte. Les financiers qui dirigeaient l'économie n'étaient nullement intéressés à changer le système financier actuel, que ses défauts étaient exactement ce qu'ils souhaitaient, et que ces défauts étaient même entretenus par eux à dessein dans le but d'imposer leur solution d'un gouvernement mondial. Et alors, les financiers firent tout pour stopper l'idée du crédit social, conspiration du silence dans les médias, falsification intentionnelle de la doctrine de Douglas dans le but de la rendre vulnérable, calomnie et ridicule contre les apôtres de Verdemain, création de partis politiques portant le nom de « Crédit social ». Douglas écrivait dans son livre « Warning Democracy ». Le progrès des idées du crédit social fut si rapide entre 1919 et 1923, tant ici en Grande-Bretagne qu'à l'étranger, et des commentaires favorables en parurent si abondamment dans les pages des journaux que les intérêts menacés par cette idée s'en alarmèrent considérablement et prirent des mesures jugées par eux efficaces pour endiguer leur publicité. En ce pays, Grande-Bretagne, l'Institut des banquiers alloua une somme de 5 millions de livres, équivalent alors à 24 millions de dollars, pour combattre les idées dites subversives, émises par nous-mêmes ou par d'autres qui oseraient mettre leur nez dans le système financier. Les grandes associations de presse reçurent des directives express, leur enjoignant de ne jamais mentionner notre nom dans la presse publique. Les journaux métropolitains, tant dans ce pays que des États-Unis, ne devait publier ni correspondance ni article portant sur ce sujet. Malgré cela, l'enquête parlementaire canadienne sur les questions bancaires, devant laquelle je fus appelé à témoigner à Ottawa en 1923, eut comme effet d'exposer d'une part l'ignorance de problèmes fondamentaux, même par des banquiers notoires, et d'autre part jusqu'où la puissance financière était prête à aller pour garder le contrôle de la situation. Le moment psychologique. Douglas a prédit que le système actuel d'argent-dette des banquiers finirait par devenir insoutenable et s'effondrerait de lui-même. On n'a qu'à penser aux dettes énormes des pays civilisés, on s'en va tout droit vers la catastrophe, tout en sachant très bien qu'elles ne pourront jamais être remboursées. D'autres facteurs annoncent cet écroulement du système. L'automation, par exemple, qui rend impossible plein emploi. Douglas disait qu'il viendra un moment psychologique, un moment critique où la population, étant donné la gravité de la situation, et cela malgré toute la puissance des financiers, aura assez souffert de leur système d'argent-dette qu'elle sera disposée à étudier et accepter le crédit social. Douglas écrivait ce qui suit en 1924 dans son livre « Social Credit ». En raison de son importance, la situation sera épouvantable. Une période relativement courte permettra probablement de décider si nous pouvons maîtriser la puissante machine économique et sociale que nous avons créée ou si c'est elle qui nous maîtrisera. Durant cette période, la moindre impulsion de la part d'un groupe d'hommes qui savent quoi faire et comment le faire pourrait être la différence entre un nouveau recul dans l'âge des ténèbres ou l'avènement en pleine lumière d'une ère d'une telle splendeur que nous pouvons à peine imaginer. C'est cette nécessité de la connaissance du moment psychologique et du choix de l'action appropriée qui devrait être présente à l'esprit de cette minorité consciente de la gravité des temps présents. Louis Eban, à la fin d'un article écrit en 1970, intitulé « Crédit social, oui, parti, non », reprend cette idée de Douglas. Les créditistes de vers demain maintiennent, comme Douglas, qu'en matière de crédit social, le travail efficace à faire est d'éclairer la population sur le monopole du crédit financier, lui imputant les flux mauvais dont il est la cause dans la vie des personnes, des familles, des institutions, et, en regard, exposer la doctrine lumineuse si conforme au bon sens du crédit social authentique. Il s'efforce aussi de développer chez eux-mêmes et rayonner l'esprit créditiste, si bien d'accord avec l'esprit évangélique, esprit de service et non de domination, et non de poursuite insatiable d'argent ou de biens matériels qui est de même nature, avec des moyens moins puissants que l'esprit des seigneurs de la haute finance. Que vienne l'écroulement du système sous le poids de ses propres énormités, ou qu'adviennent des événements maintes fois prédits par des âmes privilégiées et dont on ne peut guère douter à la vue de la décadence des mœurs, de l'apostasie, de la paganisation des peuples qui furent chrétiens et les mieux nantis de biens matériels, dans l'un ou l'autre cas, les vivants ou survivants d'alors ne seront pas sans lumière pour se donner un organisme économique et social digne du nom. Ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est que le système financier actuel qui crée l'argent sous forme de dette est le principal moyen utilisé par les financiers pour établir un gouvernement mondial, le moyen de nous amener d'une société libre à la dictature complète. Et la seule chose que les financiers craignent, la seule chose qui peut les arrêter dans leur plan de conquête mondiale, c'est la réforme du système financier actuel, par l'établissement d'un système d'argent honnête, selon les principes et la philosophie du vrai crédit social, tel qu'enseigné par Douglas et Louis Eban. C'est là qu'on réalise toute l'importance de la solution créditiste et l'importance de la faire connaître. C'est pour cette raison que Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères de Russie de 1939 à 1956, disait au docteur Hewlett Johnson, archevêque de Canterbury dans les années 1930, « Nous connaissons parfaitement le crédit social. C'est la seule théorie au monde que nous craignons. »